Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. On est toujours à Bretzel et des Jeux édition 2018. Je suis Maxime et maintenant, le président, toujours la politique de la chaise vide, est absent. Et j'ai même été abandonné par Flavien, donc je serai seul pour mener cette interview. Et je suis en compagnie de Dominique Delascapa. Salut Dom.
Salut Maxime.
Alors, t'es présent sur Des Bretzels et des Jeux en tant qu'auteur, c'est bien ça ?
Ouais, tout à fait, ouais.
T'étais déjà venu nous parler l'année dernière, tu nous avais parlé de Give Me Five, hein, que t'avais déjà édité avec Jacques Barriot.
C'est
et
ça.
Et tu nous avais parlé d'un proto qui s'appelait Stax, si je dis pas de bêtises ?
Non, tout à fait, c'est Stax. Ouais.
Et t'en es où au niveau de ce proto ?
Alors, j'y ai plus rejoué depuis l'année dernière, depuis Des Bretzels et des Jeux l'année dernière, j'avoue. On avait pas mal de bons retours sur le jeu, mais encore pas mal de choses à retravailler selon les retours des éditeurs que j'ai pu rencontrer. Depuis, je me suis lancé dans d'autres projets personnels, professionnels et familiaux, notamment mon enfant qui me prend pas mal de temps. Et j'ai d'autres projets ludiques aussi, comme l'écriture de soirée enquête Escape Room. Et là, je suis sur un autre proto de jeu pour enfants qui a pris pas mal d'énergie également. Et c'est avec celui-là que je suis là aujourd'hui et je serai là au off ce soir. Donc pour l'instant, l'eau, je l'ai mis dans un tiroir, Stax, je l'ai mis dans un tiroir en me disant je le ressortirai un peu plus tard quand j'aurai de nouveau de l'énergie à passer dessus et peut-être des idées un peu plus claires et un esprit frais.
Donc tu seras présent au off et tu auras une table pour présenter le jeu, hein,
ouais,
c'est ça ?
Tout à fait. Ouais.
Comment s'est passée la communication avec c'est le festival qui t'a contacté ou c'est toi qui a dit voilà j'ai un proto, j'ai peut-être un truc à présenter pour le off, hein. Ça s'est passé comment ?
Comme je connais bien les organisateurs du festival, donc on échange régulièrement et donc ils savent que j'ai un proto en cours, mais cela dit c'est eux qui m'ont contacté, tout comme d'autres auteurs, en disant bah tiens pour la première fois il y aura un off à Des Bretzels et des Jeux avec une zone proto et donc ils nous ont demandé si on avait un proto en cours et si on voulait bien si on était ok pour le présenter en envoyant une photo, un descriptif et des choses comme ça. Donc comme j'en avais un effectivement à ce moment là, c'était l'occasion de prendre une table réservée au off pour le présenter aux joueurs et à d'autres éditeurs.
D'accord, donc on est en train de le teaser à mort, hein, ce proto. Alors de quoi il parle ce proto ? Donc c'est un jeu pour enfants ?
C'est un jeu pour enfants, c'est un jeu coopératif qui m'a été demandé par une amie qui est professeure des écoles, qui travaillait un conte avec ses élèves qui s'appelle Les Musiciens de Brême, qui m'avait demandé si c'était possible de créer un jeu pour ses enfants, avec les contraintes de, ça doit s'inspirer du conte, ça doit être un jeu coopératif qui doit se jouer à 4, et donc j'ai lu le conte, que je connaissais pas, ça m'a inspiré quelques idées, j'ai fait un proto très rapidement, que j'ai pu tester.
Et c'était pour quel niveau scolaire, hein ?
C'était pour des élèves de 4-5 ans, telle était la demande, 4-5 ans. C'est la première fois que je faisais un jeu pour enfants de cette manière-là. Donc du coup, j'ai appris plein de choses sur les contraintes et les limites de qu'est-ce qu'on peut faire pour un enfant. Même le jeu que j'ai fait, ça va. Cela dit, j'ai vu les élèves jouer.
Ils jouent en autonomie ?
Ils jouent en autonomie.
Accompagnés, ouais. Parce que c'est souvent ça la difficulté, j'imagine, les jeux pour enfants. Est-ce qu'ils arrivent à se débrouiller seuls ou est-ce que c'est sous la supervision d'un adulte ou c'est avec un adulte ? Je pense qu'il y a différents niveaux.
Ouais. Au début, évidemment, il fallait un adulte pour jouer avec. Mais là, maintenant, la dernière vidéo que j'ai vue, c'est des enfants qui jouent en autonomie. Alors certains oublient de piocher la carte, machin, mais il y a toujours quelqu'un autour de la table qui lui rappelle, un autre enfant qui lui rappelle, non, attention, faut piocher la carte, faut faire ça dans cet ordre, etc. etc. Donc du coup, c'est le pari est remporté par rapport à la demande initiale. Donc le jeu, le proto, il a été fait rapidement, les règles ont été faites rapidement. Je l'ai envoyé à mon ami qui a pu le fabriquer avec ses élèves, tel était le projet, de fabriquer le jeu avec ses élèves, de le dessiner, de le colorier. Et du coup, ça marche. Et maintenant que le jeu fonctionne, j'ai travaillé des règles pour joueurs avancés, pour aller au-delà de la limite des 4-5 ans, pour que ce soit un jeu un peu plus intéressant pour joueurs un peu plus avertis, sans que ce soit un jeu extrêmement complexe, évidemment, ça reste très accessible.
Et l'histoire du coup, l'histoire du conte, parce que c'est pas forcément un conte très connu, les musiciens de Brême.
Moi je le connaissais pas, mais il y en a plein qui le connaissent, donc je sais pas trop. L'histoire est très simple, c'est quatre animaux qui se rencontrent par le fruit des voyages. Donc il y a un âne qui rencontre un chien, les deux rencontrent un chat qui rencontre enfin un coq, qui décident de partir ensemble à Brême, la ville voisine, pour rentrer dans la fanfare et devenir des musiciens. Et comme Brême, c'est un peu loin, le soir, ils vont monter un camp, enfin, ils vont dormir dans la forêt, et ils voient une maison. Et ils se disent, on serait bien mieux dans la maison que dans la forêt, sauf que cette maison est habitée par des voleurs. Et le plan qui monte pour faire fuir les voleurs, c'est de les effrayer, et pour les effrayer efficacement, l'âne se campe devant la fenêtre, au-dessus de lui monte le chien, sur le chien monte le chat, et sur le chat monte le coq, et tous ensemble, ils poussent leur cri, et ils font un bruit du diable.
Une espèce de monstre chimérique, comme ça.
C'est exactement ça, qui fait fuir les voleurs, et du coup, ils vivent paisiblement dans la maison, si bien que ils décident de ne plus aller à Brême et de vivre ensemble tous les quatre comme des vieux compères dans cette maison. Et voilà. Et le jeu reprend la suite stricte de cette histoire où les voleurs vont voir le chef des voleurs, ce qui est également dans le conte, pour leur dire on a été chassés de la maison. Et l'histoire du jeu raconte ce qui se passe juste après, à savoir les voleurs dont le chef décide de vouloir reprendre le contrôle de la maison. Et les quatre animaux, en s'aidant les uns les autres, vont devoir faire fuir les voleurs qui vont vouloir les attaquer tour après tour, en montant les uns sur les autres pour faire fuir les voleurs en poussant leurs cris d'animaux.
D'accord, parce que l'histoire originale, c'est pas terrible comme message pour de la pédagogie envers des enfants.
J'avoue que quand j'ai lu le conte, ça m'a pas choqué, mais quand je l'ai expliqué, c'est vrai que je me suis surpris à dire finalement, les voleurs, les animaux, ils ont pris possession de la maison.
C'est eux les méchants, en fait.
Et ils habitent dedans alors qu'ils avaient rien à y faire. Effectivement, c'est un peu bizarre.
Du coup, tu vas changer la thématique du jeu. Tu vas incarner les voleurs qui reprennent... qui essaient de faire fuir les animaux.
Ouais, qui reprennent leur bien, finalement, c'est à eux, c'est pas aux animaux. Non, mais voilà, c'est le conte, c'est sans doute un... Si, je crois que j'ai lu deux, trois choses dessus, le message, c'est plus l'amitié, quoi. L'amitié des animaux, finalement, dépasse les objectifs initiaux qui étaient de partir. Donc.
Donc le jeu se base sur l'histoire d'après.
Le jeu se base sur ce qui se passe après, quand les voleurs veulent reprendre...
Sur la suite que t'as imaginé.
C'est ça. En me disant, maintenant, qu'est-ce qui se passerait ? Imaginons que les voleurs veulent reprendre possession de leur maison. Et comment les voleurs voudraient attaquer, entre guillemets, prendre possession de la maison. Et comment les animaux décideraient de se défendre en prenant la même tactique que dans le conte, c'est-à-dire monter les uns sur les autres et pousser leurs cris d'animaux. Et c'est comme ça qu'ils font fuir les voleurs. Et quand ils arrivent à faire fuir le capitaine des voleurs, c'est là que les joueurs ont gagné. Mais si jamais la partie est trop longue et que le soleil se lève, les voleurs comprennent que c'est de simples animaux qui sont dans leur maison et non pas des sorcières comme ils l'imaginent, et du coup la partie est perdue. Ou s'ils sont entièrement encerclés, la partie est perdue aussi.
D'accord. Et donc la mécanique, ça se passe, ça fonctionne comment ?
Globalement, la maison, le domaine est réparti en quatre zones qui sont la maison en elle-même, l'étable, le poulailler et le jardin. Et chaque animal dort dans sa zone, donc démarre la partie dans la zone de sa couleur. Tour après tour, on pioche un voleur d'une pile de cartes qui a été mélangée, et le voleur va attaquer la maison dans un des coins. Et les voleurs, ils sont soit seuls, soit ils sont deux, soit même parfois ils sont trois. Et ils peuvent se superposer les uns les autres pour se regrouper. Et les animaux vont devoir se déplacer d'une zone adjacente à une autre, pouvoir se superposer sur un animal plus petit, plus grand que soi, pardon, pour former des piles. Et si la pile d'animaux contient plus d'animaux que le nombre de voleurs en face, ils ont le droit de pousser le cri de l'animal pour faire fuir le voleur, donc le défausser.
Donc en gros, sur une pièce de la maison, il y a trois voleurs, il faudra que j'empile trois animaux pour les faire partir.
Exactement, exactement, tout à fait. Et si jamais on n'y arrive pas et qu'on perd trop de temps et qu'il y a un voleur sur chaque emplacement autour de la maison, la partie est perdue.
D'accord, donc si on tarde trop à chasser les voleurs et qu'on est encerclé, c'est une défaite.
C'est une défaite, ouais.
Donc soit on perd comme ça, soit on perd si la pile est vide.
Okay. Sachant que le capitaine des voleurs va apparaître à un moment donné vers la fin de la partie, il est mélangé dans les dernières cartes de la fin, ou il est positionné dans les dernières cartes de la fin, et il faut quatre animaux superposés pour le chasser, c'est un voleur un peu spécial, il faut être quatre, comme dans le conte, pour donner un coup d'éclat final aux joueurs qui arrivent à se superposer tous les quatre et à faire fuir le capitaine, et c'est comme ça qu'il gagne.
Du coup, au niveau de l'équilibrage et des mécaniques, tu es encore en développement. Tu l'as déjà ramené au boulot lors des pauses midi. Je pense que tu l'as déjà fait tourner avec pas mal de collègues. J'avais tout à fait l'occasion de faire une partie. Donc là, c'est quoi la difficulté dans le réglage ? C'est d'ajuster la difficulté et de pas gagner trop souvent et de pas perdre trop souvent.
La difficulté principale, c'était qu'à la base, comme je disais, c'était un jeu destiné aux enfants. Donc je le voulais qu'il soit très simple. Très facile à prendre en main, pas beaucoup de règles et pas beaucoup de complexité, de matériel, de choses comme ça. Donc effectivement, quand des adultes jouent à ce jeu en mode enfant, entre guillemets, il est effectivement très simple parce que les adultes ont une capacité d'anticipation et d'organisation que n'ont pas des enfants de cet âge-là. Donc ils commettent des erreurs parce qu'ils font le truc, l'action avec un effet immédiat le plus visible et ils n'ont pas forcément d'attente et de réflexion à plus long terme. Mais des enfants, ils jouent très bien du coup et parfois ils gagnent, parfois ils perdent et c'est comme ça. Du coup, le vrai travail d'équilibrage, c'était sur les règles avancées pour justement des joueurs un peu plus adultes ou un peu plus âgés puissent y jouer de manière intéressante sans que ce soit trop facile ou avec des choix évidents. Et donc justement, l'objectif, c'était de gonfler la difficulté du jeu pour que les choix soient vraiment très impactants ou très, qu'il y ait de l'importance sur chacun des choix. Et qu'on se demande, est-ce que là je vais me déplacer, est-ce que je vais m'empiler, est-ce que je vais faire fuir, etc. Et pas arriver à un état où finalement ça coule tout seul, on fait venir un voleur, on le fait fuir, et ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc il fallait des moments de stress, des moments de tension, mais pas trop pour pas que ce soit impossible à perdre sur une pioche de cartes, mais donner un peu de contrôle aux joueurs pour limiter ces effets-là, mais sans que ce soit trop facile non plus. Ça, c'était pas évident.
Et alors les joueurs de Blackjack qui sont un peu calculateurs, ils peuvent compter les cartes voleurs en fonction de leur couleur hein,
Oui, effectivement, mais ça ne suffit pas dans ce jeu puisque il y a des voleurs spéciaux qui prennent la couleur du joueur actif. Donc du coup, ceux-là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent. Et du coup, on ne sait pas quel est le joueur qui va tirer la carte.
Du coup, tu ne peux pas anticiper non plus.
On ne peut pas anticiper tous les voleurs de niveau 3 qui débarqueraient et qui donnent le coup de stress justement dont on parlait à l'instant.
Et une des mécaniques sur laquelle tu avais travaillé, c'était faire en sorte que les animaux ne restent pas superposés tout le temps.
Oui.
Parce qu'une fois que tu as créé ta pile de 4 animaux, t'es en mode surpuissant et c'était entre guillemets trop facile de chasser systématiquement les voleurs.
Ouais, tout à fait. Et c'était l'objectif évidemment c'était de jouer sur la mécanique de on s'empile et on se dépile et on se déplace et on se rejoint et on se sépare, et donc il fallait chercher à maximiser les moments où on a besoin de se séparer et de s'empiler. Et c'est vrai que dans les règles de base telles que je les avais imaginées au départ, on pouvait superposer à 4 et après c'était assez facile de rester très groupé comme ça. Et du coup l'idée qui a émergé des parties de test qu'on a fait, c'était de dire, et si on est à 4 ou 3 ou 4 finalement, ça s'est passé comme ça, au lieu de piocher une carte voleur par tour, on va en piocher 2 par tour. Ce qui veut dire que non seulement effectivement on est très puissant parce qu'on est très nombreux, donc on peut faire fuir n'importe quelle pile de voleurs, mais en même temps il y en arrive plus par tour. Et ça va du coup nécessiter des questions de, est-ce que je reste empilé mais on va piocher 2 cartes au tour suivant, ou est-ce que je me dépile pour qu'on en pioche qu'une mais quitte à se regrouper un peu plus tard. Et du coup ça donnait des décisions et des choix intéressants sur les parties qu'on a pu faire.
Donc plus on est puissant, plus le niveau de menace augmente.
Exactement.
C'est vrai, on retrouve un peu cette notion dans Dead of Winter, je sais pas si t'as joué.
J'ai fait une partie.
Plus t'as de survivants dans ta colonie, plus il faut leur fournir à bouffer. Mm. Et c'est vrai que c'est un choix de dire, on a 6 personnages, mais il faudra fournir 6 bouffes à chaque tour, ce qui est un coût qui n'est pas négligeable.
Ouais. Et du coup, ça donne une dynamique vraiment très intéressante à la partie, où au début, comme on est tous dépilés les uns dans les sens, la partie commence doucement, mais comme il y a déjà des voleurs, ça vient petit à petit. Pour les faire fuir, il faut qu'on arrive à s'empiler pour les faire fuir, mais si on est trop empilé, trop fort, d'un seul coup, il y a un coup de boost, et il y en a plus qui arrivent, et on arrive à se faire submerger par plein de voleurs, mais à quand même devoir les gérer au fur et à mesure, ce qui donne une tension vraiment très intéressante.
Et ce que tu disais aussi, c'est que cette règle permettait de casser les schémas standards d'empilement. Parce que les joueurs, ils avaient tendance à tout le temps respecter l'ordre naturel, c'est-à-dire tu fais monter le coq sur le chat, etc.
Le chat sur le chien, le chien sur le coq.
Tu respectes la pyramide de taille, quoi.
Parce que c'était la plus optimum, effectivement, et qui permettait de se dire, là, on est bien. La vraie problématique que cette règle a réglée, c'est... d'arriver à un état où parfois ça vaut mieux le coup de rien faire et de rester empilé de manière idéale selon la pyramide l'ordre établi parce qu'on se dit que justement on est bien, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de danger et on pourra très bien gérer ça au tour prochain. Alors que là, maintenant, quand on pioche deux cartes par tour, on est obligé de quitter sa pyramide et ça arrive que le coq monte sur l'âne pour faire une pile de deux pour gérer deux voleurs, alors que normalement, jamais un coq monterait sur un âne parce qu'il va bloquer le chemin pour que le chien puisse monter sur l'âne. Donc ça va coûter un déplacement de se dépiler pour remplir dans le bon ordre. Donc cette règle-là a permis vraiment de gérer ces effets-là et du coup donne des empilements d'animaux très différents et il faut s'adapter à chaque situation de manière créative.
Du coup, tu vas le présenter ce soir au off. Hein.
Oui.
Les parties durent combien de temps à peu près ?
C'est une dizaine de minutes, 10, peut-être un peu plus avec les règles avancées, mais ça dépasse pas le quart d'heure. J'ai déjà envoyé le jeu à un éditeur et je compte le faire tester à d'autres. J'ai pas eu de retour pour le moment, donc je le fais tester. Ça m'intéresse de le faire tester aussi au public qui vient pour voir, et on verra si un éditeur trouve.
Parce qu'au final, c'est un projet tout récent.
C'est ça, ça a 3 mois, même pas. Ça a quelques mois.
Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ?
Merci de m'avoir invité.
Bah écoute, merci de ton intervention.
Et je vais aller manger une bretzel là juste à côté.
Ah bah voilà, tu vois, t'as anticipé ma question traditionnelle et redondante. Bon, du coup, est-ce que t'as mangé déjà une bretzel aujourd'hui ?
Pas encore. Bah, je suis arrivé il y a une heure.
16 heures, c'est l'heure de goûter. Hein,
c'est
il
le
serait
moment.
Temps.
Ça marche. Ça.
Et ben, bon courage pour le off ce soir.
Merci.
Tu vas veiller très tard, j'imagine.
Ouais, peut-être un peu.
Ouais. Ça roule. Bah merci de ta participation.
Merci
et à bientôt.
À bientôt.